Les parts actualités.
Bienvenue à l'émission Les Paractualités du 14 mai 2018. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Et en manchette aujourd'hui, une arrivée grandiose pour les 5500 participants. Changer le monde grâce aux jeux vidéo. Aussi, Microsoft investit 25 millions de dollars pour mettre l'intelligence artificielle au service des handicapés. En entrevue, je recevrai Isabelle Dumontier, intervenante accueil et soutien pour l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, qui nous parlera d'une rencontre familiale qui aura lieu au début du mois de juin. Et aussi Josée Fortin, directrice générale de la Maison Kangourou, qui nous parlera de l'état de la situation de la Maison Kangourou, premier centre d'hébergement d'urgence pour les enfants au Québec. Une arrivée grandiose pour les 5500 participants. Pour la sixième présentation de la course du Grand Défi Pierre Lavoie, GDPL, les 5500 jeunes coureurs partis samedi matin à Québec sont arrivés au Stade olympique dimanche après-midi par l'entrée marathon, celle-là même que les marathoniens ont emprunté pour compléter leurs 42 km lors des Jeux olympiques de 1976. Des élèves d'écoles de partout au Québec ont relevé le défi de parcourir les 270 km dans le cadre d'une course à relais. Certains se sont blessés en cours de route, mais ils ont pu finir la course en fauteuil roulant. Pour l'ambassadeur Guillaume Lemaitie-Vierge, qui est rattaché à l'événement pour la cinquième année, c'était toute une sensation de compléter le parcours à l'intérieur du stade olympique. C'est vraiment grandiose de terminer ainsi, a lancé l'acteur. Malgré ce qu'on peut dire sur le stade, ça demeure le stade olympique, un emblème d'activité physique au Québec. Une des athlètes chouchous du Québec, Marianne Saint-Gelais, a pour sa part parcouru environ 40 km. Ce fut aussi un entraînement pour la 10e édition de l'événement cyclisme du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie qui se déroulera du 14 au 17 juin. Nouvelle tirée de QuébecDanse.org. En 2015, une rencontre avec le Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec dans le cadre du projet Les Veillées marque un tournant majeur pour la compagnie de danse Code Universel. Dans une approche inclusive et égalitaire, un vaste projet de médiation culturelle s'amorce. En parallèle d'une série d'activités d'initiation à la danse, un processus exploratoire réunit des femmes sourdes et des artistes féminines dans le but de développer un langage artistique commun qui aboutira à la présentation d'une pièce dansée. Elle, au pluriel, devant un public sourd et entendant. Au début de cette aventure, nous ne mesurions pas les défis à relever, ni à quel point cette expérience allait nous transformer. Le vécu des femmes sourdes était au cœur de notre démarche. Lors de notre première rencontre, j'ai été émue par leurs histoires, leurs expériences de vie, leur courage et leur résilience. Outre le fait qu'il fallait avoir une dérogation pour être accepté dans les locaux, puisque je suis un homme, lentement, progressivement, nous avons tissé des liens de confiance. Elles ont acquis une autonomie dans le projet s'activant dans notre démarche artistique et partageant nos visions communes. Petit à petit, les barrières sont tombées, jusqu'à oser une présentation publique de « Elle », une œuvre fusionnant danse et théâtre, paroles et langue des signes, LSQ. La directrice du Comité d'aide aux femmes sourdes du Québec, Mélanie Leblanc, constate que les retombées sur la clientèle ont été épanouissantes et que la médiation culturelle en danse a eu des effets bénéfiques. D'après elle, les participantes ont développé une meilleure estime d'elles-mêmes. À l'issue du projet, plusieurs participantes ont souhaité assister à des spectacles afin de continuer à cultiver leur curiosité de la danse et d'autres formes d'art. Certaines ont réalisé la possibilité d'être artistes malgré leur handicap. Et je vais joindre Isabelle Dumontier, intervenante accueil et soutien pour l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, pour nous parler, entre autres, de la rencontre familiale annuelle AGA qui se tiendra chez Shawinigan le 9 juin. Bonjour, Madame Dumontier.
Bonjour.
Alors, d'abord, quelle est la mission de l'AQPEHV?
Bien, rapidement, notre mission, c'est d'outiller les parents qui ont des enfants avec une déficience visuelle pour leur permettre d'être les meilleurs parents possibles auprès de leurs enfants, puis de surmonter les difficultés là, que ce handicap peut amener dans la vie de ces familles-là.
Et cette association existe depuis combien d'années?
Oh mon Dieu, c'est la 38e rencontre familiale annuelle, donc c'est la 38e année, exactement.
Et que se passe-t-il durant cette rencontre?
Oui, ben pendant cette rencontre-là, on a effectivement notre assemblée générale annuelle. On en profite pour présenter notre rapport d'activité puis regarder qu'est-ce qu'on va faire durant la prochaine année. Mais c'est aussi une très belle occasion de réunir les familles membres de notre association. Les enfants partent, les plus jeunes partent avec la halle garderie dans un local là, de l'hôtel. Mm-hmm. Et puis les plus vieux partent en activité. Cette année, ils vont aller au camp Notre-Dame à Hérouville, faire toutes sortes d'activités avec les moniteurs de la Fondation des aveugles du Québec. Et puis, pendant ce temps-là, les parents vont venir à l'Assemblée générale annuelle, évidemment, mais ensuite, on a un cocktail pour pouvoir jaser entre nous. Puis ensuite, on a un souper puis une belle soirée dansante familiale avec tous les enfants et les parents réunis ensemble.
Et vous attendez combien de personnes?
Mon Dieu, on attend une centaine de personnes autour.
Et pouvez-vous nous donner une idée de l'ordre du jour de votre AGA?
Oui, certainement. Bien, en fait, comme je vous disais, on va avoir le rapport d'activité qui va être présenté.
Oui.
On va aussi regarder les orientations de l'association, puis on va présenter notre plan d'action pour l'année prochaine. C'est le temps, évidemment, de regarder les budgets, ce que ça a l'air. Et puis.
Ça a l'air? Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée là-dessus?
Eh bien, ça va bien.
Oui?
Ça va bien. Contrairement à d'autres organismes, là, je dois avouer que le financement pour les projets d'action avec les enfants sont quand même bien. Puis nous, on arrive à faire beaucoup de choses grâce aussi aux dons des parents, là. Donc, on a
mais tant mieux,
même...
c'est rare qu'on entend ça, positif, oui, un organisme qui se porte bien, mais il y a toujours place à l'amélioration, là. J'imagine que vous n'avez jamais assez de dons ou les gens peuvent contribuer?
Bien, évidemment qu'on voudrait tout le temps faire plus de choses. Des fois, les limites, c'est le budget. Des fois, les limites, c'est d'avoir des membres à travers le Québec.
Mm-hmm.
Donc, quand on pense aux gens aux Îles-de-la-Madeleine ou à la Côte-Nord, des fois, c'est un peu moins évident de les joindre. Mais pour ça, on a des ateliers téléphoniques qu'on a commencé cette année. Bon, on travaille sur des projets pour essayer d'aller rejoindre ces gens-là là, partout, peu importe où ils habitent.
Est-ce qu'il y a beaucoup de bénévolat chez vous?
Dans le fond, les membres de la Fondation des aveugles du Québec, les moniteurs, ils sont pratiquement tous bénévoles. Donc, quand ils viennent pour accompagner nos jeunes en activité, trois fois par année, ils font en donnant de leur temps. Donc, c'est toujours très apprécié. Là, c'est un partenariat sans lequel je pense que nos jeunes seraient malheureux là, si on les perdait, puis nous aussi.
Ah oui, certainement. Et puis, la rencontre familiale, vous dites qu'au début de la journée, vous allez séparer les enfants des adultes.
Oui.
Les enfants s'en vont à Hérouville. Qu'est-ce qu'il va avoir comme activité à ce camp de jour-là?
Oui, ben en fait, ça dépend si la température le permet. Il pourrait y avoir de la baignade, il pourrait y avoir du canot, peut-être une petite partie de soccer, du tir à l'arc. C'est encore à déterminer là, les activités comme telles. Mm-hmm. On va aller avec le goût des jeunes, mais il y a plein d'activités qui vont être offertes pour s'assurer qu'il y en ait pour tous les goûts.
Bon, on espère qu'il fasse beau et plutôt oui. chaud pour avoir le goût de se lancer dans l'eau.
Bien, si et... on s'y a aujourd'hui, on est bien parti.
Ah oui, oui, aujourd'hui, c'est une journée formidable. C'est oui. l'été au printemps. Alors, Isabelle Dumontier, la rencontre donc familiale annuelle AGA a lieu le 9 juin 2018, c'est à Shawinigan.
Oui.
Et si on veut s'inscrire, c'est encore le temps?
Oui, vous avez jusqu'à vendredi cette semaine,
oui.
donc le 18 mai, et puis vous pouvez le faire en ligne ou nous appeler à l'ACPEV. On peut compléter l'inscription avec les gens qui sont intéressés.
Et quel est le commentaire général, parce que vous dites que ça fait 38 ans que vous tenez des rencontres familiales, quand les gens terminent cette journée-là, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Oh mon Dieu, moi j'ai commencé comme intervenante l'année passée. La force, c'est vraiment les parents. Ils sont là, ils sont contents, ils sont bien, ils sont heureux de retrouver les gens qu'ils ont connus les années antérieures.
Ah oui.
Les nouveaux sont vraiment les bienvenus. On sent pas qu'on est nouveau quand on arrive là.
Il n'y a pas de clic.
Exactement. Puis c'est comme vraiment un moment de relaxation. Il y a un moment sans les enfants, puis après ça, ben là, cette année, on a la soirée va être en famille, mais c'est vraiment ressourçant. Là, ce qu'on entend, c'est que les parents sont très heureux de profiter de cette belle journée-là pour pouvoir enfin discuter. Là.
Non, mais tant mieux, on souhaite que cette journée du 9 juin 2018 soit à l'image des autres, des journées antérieures où ça s'est très bien passé. Alors, Isabelle Dumontier, intervenante accueil et soutien pour l'ACPEV, un grand merci, puis un bon 9 juin.
Bien, ça me fait plaisir, puis au plaisir de voir les gens parmi nous.
Certainement. Nouvelle tirée du site de Radio-Canada, changer le monde grâce aux jeux vidéo. Des étudiants de l'Université de Sherbrooke participent à un concours de jeux vidéo organisé par Ubisoft ayant pour thème « Changer le monde ». Au total, 19 équipes s'affrontent dans cette compétition. Les participants ont 10 semaines pour développer un prototype de jeu vidéo jouable en 3 dimensions. Ils ont aussi plusieurs contraintes à respecter, avoir un lien avec une cause sociale, mode multijoueur, intégration de concept art, avoir un élément adaptatif et d'intelligence artificielle, entre autres. L'équipe sherbrookoise a développé un prototype de jeu vidéo pour sensibiliser les gens à la déficience visuelle. C'est l'histoire d'une petite fille aveugle et de son chien guide. Elle vient de recevoir son chien et doit se rendre dans un café pour chiens. En chemin, elle doit résoudre des puzzles, explique Marie-Pierre Desharnais, l'une des membres du groupe. C'était un défi vraiment intéressant étant donné que dans les jeux vidéo, on se base sur la vue, sur les images, tout ce qui est visuel pour se diriger dans le monde. Sauf que dans notre jeu, en ôtant cet aspect pour un des personnages parce que ça se joue à 2 joueurs, on se retrouve avec un challenge. Comment faire vivre aux joueurs les difficultés? On trouvait que c'était vraiment intéressant. L'équipe de l'Université de Sherbrooke a développé un prototype de jeu vidéo pour sensibiliser les gens à la déficience visuelle. 8 personnes composent l'équipe de l'Université de Sherbrooke, 7 programmeurs et 1 artiste. C'est la 8e édition de ce concours. Nouvelle de l'écho-abitibien.ca, 10aine de chiens Mira en Abitibi-Témiscamingue. Depuis les débuts de la Fondation Mira, 30aine de chiens de l'organisme ont été envoyés en Abitibi-Témiscamingue. Toutefois, selon Rachel Lunardi, directrice du financement pour l'Est du Québec à la Fondation Mira, plusieurs estiment à tort que les chiens Mira sont davantage à leur place dans les grands centres. J'ai entendu plusieurs fois des gens dans les régions dire qu'il y a plus de besoins dans les grandes villes, mais c'est faux, explique Mme Lunardi. Les chiens guides peuvent aider partout, peu importe la région. Actuellement, 3 chiens guides, 2 chiens d'assistance et 5 chiens pour des familles avec des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme sont actuellement au travail dans la région. On compte également 1 famille d'accueil active pour 1 chien Mira. Malgré la distance, les habitants de l'Abitibi-Témiscamingue peuvent avoir accès à nos services, indique Rachel Lunardi. Nous pouvons les aider à obtenir un transport lors de leur formation avec leurs chiens. De plus, ils sont logés et nourris par nous tout au long de leur séjour avant de repartir avec leur nouveau compagnon. C'est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. Pour l'obtention d'un chien guide, il faut être à l'école de dressage de Mira durant un mois. Pour un chien d'assistance, il faut y être pendant 3 semaines et pendant 7 jours pour un enfant autiste. Ce que nous avons remarqué, c'est aussi vrai en Abitibi-Témiscamingue, c'est que les gens se sont appropriés la fondation, estime Rachel Lunardi. Mira appartient au peuple québécois. Pour une 10e année, les Chevaliers de Colomb tiendront un barrage routier le 11 mai. Alors, le 11 mai, c'était il y a quelques jours, à Malartic. Ça s'est passé donc de 10h à 18h au coin des rues Royales et La Salle. Nous essaierons d'avoir des nouvelles au sujet donc de cet événement. Alors maintenant, je m'entretiens avec Josée Fortin, directrice générale de la Maison Kangourou, pour nous parler de l'état de la situation de cette maison, qui est le premier centre d'hébergement d'urgence pour les enfants au Québec, qui a été affecté par un grave dégât d'eau récemment. Bonjour, Madame Fortin.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Bienvenue, ça me fait plaisir.
En tout premier lieu, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que la Maison Kangourou, avec un peu plus de détails que j'en ai donné, là?
Oui, mais en fait, c'est ça. La Maison Kangourou, c'est le premier centre d'urgence au Québec qui est ouvert 24 heures.
24 heures sur 24, oui.
Oui, 7 jours sur 7, quand les parents vont pas bien. C'est alors, un centre que j'ai fondé en 2011, lorsque, bien entendu, il y a eu l'histoire de Guy Turcotte, mais il y a eu d'autres histoires de parents qui ont vécu de la détresse parentale puis qui ont commis l'irréparable. Puis je me disais, comment ça se fait qu'il n'y a pas de maison ouverte 24 heures où les parents, quand ils vont pas bien, peuvent aller porter leurs enfants puis essayer de régler la problématique.
Vous êtes situé où, la Maison Kangourou?
On est à Montréal. On n'est pas tellement loin de la place Versailles.
La place Versailles. J'ai la misère à vous entendre un petit peu.
Ah,
juste
pardon,
peut-être bouger.
Oui, pardonnez-moi.
Non,
on
ça
est
va.
À côté. Là, on est à côté de la place Versailles à Montréal, dans l'Est.
Mm-hmm. Et quel service vous offrez? Bon, vous dites que vous aidez les personnes en détresse, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce qu'il y a des psychologues?
C'est ça, mais pour faire attention, nous, la maison a été établie pour aider les parents en détresse, mais c'est également pour aider toutes les familles avec toutes sortes de problématiques. Nous, les problématiques qu'on rencontre souvent avec les familles, c'est, bon, l'épuisement, ça, c'est le numéro un.
Oui.
Beaucoup de familles courent beaucoup, ils ont 2, 3 enfants. On a des parents aussi qui sont malades. Donc, quand un enfant malade, quand ils doivent se déplacer à l'hôpital, des fois, c'est pas toujours évident d'avoir des gens autour de soi qui peuvent prendre les enfants. À la dernière minute, je donne un cas de la semaine passée. On a eu l'hôpital de général de Montréal qui ont appelé une mère avec 3 enfants, 2, 4 ans, puis 8 ans. Puis quand elle est rentrée à l'hôpital, faire soigner son petit 2 ans, ils ont dit, écoute, tu peux pas sortir de l'hôpital, il est très, très malade.
Ah, ouais.
Ça peut être des cas comme ça. On en a tous les cas.
C'est ça, c'est très varié.
Oui, c'est très varié. C'est très varié. On a des parents, bien entendu, qui appellent, qui disent, moi, ce soir, je vais mettre fin à la vie de mon enfant ou mes enfants. Fait que, tu sais, on en a des parents qui appellent. C'est ça qui est merveilleux, parce qu'il y a des parents qui ont le courage de prendre le téléphone et de dire, ça va pas bien, parce qu'on existe. Là, je veux dire, c'est pour ça que je l'ai fait, cette ressource-là, justement. Mm-hmm.
Et vous évaluez comment les personnes qui appellent, à qui vous dites oui, viens-t'en, puis on va te rappeler, je ne sais pas, comment vous faites l'évaluation?
Ben nous, ça va faire 7 ans
ouais.
que j'ai parti de la ressource. Alors, c'est sûr qu'au téléphone, j'en aurais des cas et des cas à vous raconter.
Ouais.
Mais normalement, quand le parent appelle, là, il est vraiment découragé. Ça, c'est les parents qu'on parle qui sont à risque. Là.
Mm-hmm.
Ils vont appeler, puis là, ils vont... Mais le fait qu'ils puissent avoir quelqu'un au téléphone, même à moi, j'ai des parents qui appellent à 2h du matin. Puis des fois, je peux passer 1h30, 2h avec les parents au téléphone ou le parent. Alors déjà, ça, c'est un endroit où ça calme le parent.
Oui.
Il peut verbaliser, là, gars, moi, je suis un bon parent, mais à ce soir, ça va pas bien. Puis qu'est-ce qui se passe? T'sais, moi, c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Et là, le parent, là, ça, il déballe, il parle. Puis là, on voit que ça se calme. Mais l'avantage, c'est quand on a eu des parents qui étaient vraiment... Des fois, là, la vie, la pression qu'on peut avoir sur soi, ça peut être énorme. Alors, tu sais, là, on dit, bon, ben, écoute, venez porter les enfants. Porter les enfants. Puis, c'est ça. Tu sais, des cas où ils sont arrivés, puis ils viennent au bout de 30 minutes, ils arrivent soit en taxi ou par le biais d'une personne qui peut venir les porter. Puis là, à ce moment-là, on s'assoit avec eux, puis on regarde quelles sont les ressources de besoin, qu'est-ce qui se passe. Mais l'objectif premier, c'est que les petites, les enfants sont dans un endroit sécure.
Et vous êtes combien à travailler à la Maison Kangourou?
Bien là, actuellement, c'est ça. On a eu un grave dégât d'eau en janvier. Ça, c'est pas drôle. Ben non, c'est ça. Puis là, c'est ça. Nous autres, on est plusieurs. On est une équipe de 40, normalement. C'est tous des bénévoles, pour la plupart. Puis, c'est ça. Fait que nous, on offre ces services-là. Puis, c'est ça. Mais là, il est arrivé en janvier un dégât d'eau, qui était important, mais on savait pas où ce que ça allait nous mener.
Mm-hmm.
Alors, là, c'est ça. Là, il y a eu le chauffage arrêté en plein hiver. Il y a eu des gros froids. Les trois étages, les tuyaux ont éclaté. Puis là, après ça, ben là, ils ont commencé les travaux. Ça a pris peut-être trois semaines avant de savoir qui fait quoi là-dedans. Puis quand ils ont commencé les travaux, au bout de deux semaines, ils m'ont rappelé. Ils ont dit, enfin, on n'a pas de bonnes nouvelles. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, ils ont trouvé de l'amiante dans les murs, dans certains murs. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, ça nous a pris deux ans. On a eu 150 bénévoles de partout, des gens de tout horizon, de toute nationalité, de tous les métiers, de tous les âges. Moi, je prenais tout le monde. Les gens, il y avait des gens qui travaillaient pas, qui étaient des bons menuisiers, des bons plombiers. Puis on a tout arrangé la Maison Kangourou. Ça nous a pris deux ans. Mais là, ils ont dit, faut tout vider. Fait que là, ils sont venus avec trois camions, 250 boîtes. Ils ont tout enlevé, les lits des enfants, la salle de hockey. En tout cas, tout y a passé. Fait que là, la maison était vide. Fait que là, on s'est dit, bon, ils vont faire les travaux. Ils ont commencé les travaux. Puis là, ils m'ont rappelé pour dire, Mme Fortin, on a un autre problème. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Puis on dit, là, on a trouvé des fissures dans la fondation. Hein? Parce que là, ils ont ouvert les murs. Fait que là, on est pris là-dedans. Alors, c'est ça. Puis là, quand j'ai vu le cas là, de la petite Rosalie Gagnon, c'est sûr que moi, ça m'a interpellée. Puis je me suis dit, tu sais, nous autres, ça fait 7 ans qu'on fait ça. On me demande des sous. On vit que des dons. Là. Ça n'a aucun sens. C'est un service essentiel.
Mais est-ce que la maison est encore ouverte à ce moment-ci? J'imagine que non.
Non, la maison pour recevoir les enfants n'est pas ouverte. Mais moi, je continue à recevoir des appels. Juste la semaine passée, j'ai eu 8 appels de parents, là, pour vous donner une idée. Puis moi, je continue les appels téléphoniques, je réfère les parents. Fait que moi, je suis toujours, puis en plus, il faut que, là, je m'occupe de tout ce que normalement, je ne ferais pas, là, les contracteurs, essayer de trouver des sous pour pouvoir réparer cette fondation-là.
Mais Mme Fortin, j'ai tout...
public.
Oui, bien, c'est sûr. J'ai lu aussi votre lettre qui était très bouleversante que vous avez publiée sur votre page Facebook. Et en terminant...
Radio-Canada l'ont fait, TVA aussi l'ont publié. Donc, elle est disponible en ligne sur l'Internet via Radio-Canada.
Si on veut vous aider, qu'est-ce qu'on fait en terminant?
Bien, c'est s'il sûr, c'est là, actuellement, on a des dons monétaires. C'est tout ce qu'on peut demander pour l'instant pour la fondation. Là.
Et vos coordonnées?
C'est la maisonkangourou.org, le site Internet, ou le téléphone 514-524-4141.
Alors, deux mots en terminant, Mme Fortin. Ben, je vous souhaite la meilleure des chances pour que la Maison Kangourou rouvre et qu'elle soit saine pour accueillir toutes ces personnes en détresse qui en ont grandement besoin. Puis, bravo pour cette initiative vraiment importante. Merci.
Vous êtes gentil. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Au revoir.
Dans la presse plus, je suis heureux d'avoir la chance d'en finir. David Goodall, scientifique australien de 104 ans, a poussé la chansonnette hier devant les journalistes. Et du même coup, il leur a annoncé qu'il attendait avec impatience de pouvoir enfin se donner la mort dans une clinique suisse aujourd'hui sur le coup de midi. Le David Goodall ne souffre d'aucune maladie en phase terminale, mais ce scientifique australien juge que sa qualité de vie s'est détériorée et qu'il est temps de partir. « Je ne veux plus continuer de vivre », a avoué l'homme de 104 ans hier devant des dizaines de journalistes et les caméras de télévision entassées dans une salle exiguë d'un hôtel dans le nord de la Suisse. « Je suis heureux d'avoir la chance demain d'en finir et j'apprécie l'aide de la profession médicale de ce pays pour rendre cela possible. » Interrogé sur la musique qu'il souhaitait peut-être entendre pendant ses derniers instants, il a répondu qu'il n'y avait pas réfléchi. Mais si je devais choisir quelque chose, je pense que ce serait le dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, a-t-il ajouté, avant de chanter d'une voix forte un extrait de l'hymne à la joie, en allemand, salué par des applaudissements. M. Goodell n'a pas été autorisée à se donner la mort avec assistance en Australie et a donc été forcée de voyager jusqu'en Suisse, un exil, dis-je bien, qu'il ressent avec amertume. Microsoft poursuit ses efforts en matière d'accessibilité en investissant 25 millions de dollars sur 5 ans pour aider développeurs, entreprises et chercheurs à mettre au point des produits et solutions d'intelligence artificielle à destination des personnes en situation de handicap. Microsoft a annoncé le 7 mai All Force Accessibility, un programme d'investissement de 25 millions de dollars sur 5 ans afin d'utiliser les avancées en matière d'intelligence artificielle pour aider le milliard de personnes dans le monde qui se trouvent en situation de handicap. L'OMS estime que seule une personne handicapée sur 10 dispose d'un outil pour l'aider dans sa vie de tous les jours. L'annonce a eu lieu à la conférence Microsoft Build 2018 qui se tenait à Seattle. Même si vous n'avez pas de handicap aujourd'hui, vous avez de bonnes chances d'en avoir un tôt ou tard, de bonnes chances ou des risques plutôt, qu'ils soient temporaires ou définitifs. C'est une conséquence naturelle du vieillissement et ça fait partie de ce qui fait de nous des êtres humains, a commenté Jenny Leigh Fleury, chef accessibilité chez Microsoft et elle-même atteinte de surdité lors d'une table ronde. Un redoublement d'efforts pour l'accessibilité depuis 2015. Le programme s'adresse aux développeurs, ONG, chercheurs et autres inventeurs et se concentre sur trois domaines spécifiques, le marché du travail, les connexions humaines et la vie moderne. Microsoft s'engage à mettre à disposition sa technologie, ses experts en intelligence artificielle, mais aussi des subventions pour accélérer le développement de solutions d'accessibilité intelligente. À noter cependant que Microsoft n'a pas souhaité répondre aux questions sur le montant exact des 25 millions qui sera alloué sous forme de subventions. Voilà, c'est tout pour l'émission Les Paractualités du 14 mai 2018. Un grand merci à mes invités. Alors, il s'agit de Mme Isabelle Dumontier ainsi que de Mme Josée Fortin de la Maison Kangourou. Et merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la technique. Je vous dis un grand merci à vous d'avoir été à l'écoute. Et dans un petit moment, c'est Accès libre aujourd'hui animé par quelqu'un que vous connaissez peut-être. Il s'appelle Luc Fortin. À bientôt, on se retrouve demain.